Alors, bien, le point 12 de l'ordre du jour, il s'agit des relations entre la Commission du Codex Alimentarius et d'autres organisations internationales. Ce point de l'ordre du jour est le CX/CAC/10/33/12. Et il y a aussi un CRD du Panama. Ce point de l'ordre du jour est à titre d'information, principalement. Nos partenaires, qui sont en fait des organisations internationales intergouvernementales, font parfois une brève présentation de 5 minutes avec leur association avec le Codex au cours de l'année écoulée. Ces documents, pour information, se trouvent dans le document INF. Nous avons eu le plaisir d'entendre la présentation du Dr Bernard Vallat, du directeur général de l'OIE, et il a fait la présentation tout de suite après le déjeuner. Nous allons donc prendre quatre présentations supplémentaires. La première vient de l'OMC. Et vous trouverez les informations dans l'INF 3 et également une mise à jour dans le STDF INF 4. Je passe maintenant la parole à l'OMC pour faire sa brève présentation.
Thank you, Chair.
Merci, Monsieur le Président. Mes commentaires vont simplement souligner quelques éléments du rapport qui vient d'être mentionné et je fournirai une mise à jour des réunions du STDF et SPS de ces dernières semaines. Le SPS se réunit plusieurs fois par an, trois fois par an. Il a tenu une réunion il y a deux semaines. Monsieur Flamme D'Amico est devenu président du comité SPS pour la période 2010-2011. Il a pris son poste à la suite de Monsieur Chavez de l'Argentine. Le comité SPS est un forum pour la discussion de préoccupations particulières où un membre ou plusieurs membres peuvent indiquer leurs préoccupations posées par certains membres. 294 préoccupations ont été présentées entre 1995 et mars 2010 et 80 d'entre elles, ou 23% si vous voulez, étaient liées principalement à la sécurité sanitaire des produits alimentaires. Un certain nombre de ces cas concernent des écarts par rapport à des normes internationales, parfois des normes du Codex. Si les délégations s'intéressent à suivre des préoccupations commerciales spécifiques mentionnées au comité SPS, particulièrement par rapport à des catégories de produits ou qui intéressent ses membres, ils pourront consulter le système de gestion du SPS qui se trouve au secrétariat de l'OMC, qui est mis à disposition en trois langues, français, espagnol et anglais. Et le site web est spsims.wto.org. Plus de 1000 notifications ont été remises à l'OMT par les membres en 2009. Et la moitié d'entre elles étaient de nouveau liées à des questions de sécurité sanitaire des produits alimentaires. De nouveau, vous pouvez faire une recherche si vous vous intéressez à une notification en matière d'aflatoxine. Vous pouvez le faire en passant par justement notre site SPSIMS. Pour ce qui est de la transparence, nous avons organisé un atelier de transparence ouvert à tous qui aura lieu pendant la semaine du 18 octobre. L'OMC pourra financer la participation de 50 pays en développement ou PMA, surtout des points de contact ou de notification SPS. Pour les détails du programme et les candidatures, les documents de référence sont les GSPS, JAG 1, GEN 997. Le comité a un mandat de suivre le processus d'harmonisation et l'utilisation de normes internationales. Au mois d'octobre 2009 et au mois de juin 2010, à l'occasion des réunions des comités, le sujet de la lactobamine a été soumis à l'attention de l'SPS du SPS et certaines préoccupations concernant les retards pour l'établissement de LMR ont été mentionnées à propos de la ractopamie. Le comité est mandaté pour passer en revue l'application opérationnelle donc de nos accords. Le deuxième examen a eu lieu il y a peu de temps, qui a ouvert la porte à un atelier en 2009 pour voir quelles étaient les relations entre les organes normatifs, le Codex et l'IPPC, et leurs relations donc avec l'OMC, plus particulièrement son comité SPS. La collaboration entre les divers organes a été renforcée et recommandée. Une des recommandations de l'atelier concernait les organes normatifs qui devaient donner des mises à jour plus tôt avant les réunions de comité à propos de leurs travaux. Le dernier examen du SPS a été révisé en 2010 et il a recommandé que les comités donnent suite aux recommandations de l'atelier en question. Pour ce qui est de l'assistance technique de l'OMC, nous aimerions d'abord remercier le secrétaire du Codex des contributions très utiles qu'il a faites aux activités d'assistance technique SPS dans le cadre de l'OMC. Je souhaite également attirer l'attention des délégués sur le fait que l'activité technique en matière de SPS sont prévues cette année. Un cours au mois d'octobre de 3 semaines et 3 ateliers de régionaux de 3 jours dans diverses régions qui sont ouverts aux divers pays, c'est-à-dire aux membres de l'OMC, aux observateurs, dans les régions suivantes: Amérique latine, Asie et Pacifique, et Europe centrale et Asie, et Caucase, Asie centrale et Caucase. Les délais pour s'inscrire pour ces activités est le 19 juillet, c'est-à-dire le 9 juillet, la fin de cette semaine. Les délégations intéressées sont encouragées à consulter la brochure que vous devriez avoir devant vous. Ces brochures auraient dû être distribuées en début d'après-midi. Ils peuvent aussi consulter le document GSP GN 997. Nous souhaitons obtenir davantage de candidatures de la part des régions de l'Asie Pacifique et d'Aribe Central, de l'Europe centrale, de l'Est et d'Europe, d'Asie centrale, parce que nous avons parfois la difficulté à atteindre toutes les personnes intéressées dans ces pays. Nous ne recevons pas beaucoup de candidatures de leur place. Encore quelques mots à propos de CTDF. Je voudrais mentionner quelques développements récents. Le groupe de travail dans la manière a essayé de voir quelle était la performance des systèmes SPS pertinents. Ce groupe de travail s'est tenu la semaine dernière, en octobre, du 3-6 octobre. Nous allons organiser un atelier sur les partenariats publics et privés qui aura lieu à La Haye, aux Pays-Bas, en liaison avec le ministère de l'Agriculture néerlandais et la Banque mondiale. Les délégations intéressées peuvent bien sûr consulter les documents, mais aussi le site STDF pour d'autres informations. Je crois que je m'arrêterai ici. Je ne suis pas sûre que j'aurai le temps de traiter des normes privées. À vous, mesdames et messieurs, de me dire si vous souhaitez que je vous donne quelques informations à propos des discussions concernant les notes privées maintenant ou plus tard. Je remercie la représentante de l'OMC de ces informations fort utiles. Je suis sûre que les délégués souhaiteront profiter des informations qui leur ont été données cet après-midi. Maintenant, pour ce qui est des normes privées, je propose que cela soit pris quand nous aborderons le point suivant de l'ordre du jour, le point 13 de l'ordre du jour, tout de suite après celui-ci. Vous pourrez faire votre intervention à ce moment-là. Au cas où vous auriez des questions à poser aux représentants de l'OMC, vous pouvez le faire maintenant.
I do not see any...
Je ne vois pas de pancarte se lever. Donc, nous passons à la suite. Nous avons de passer à la présentation de l'AIOE, le conseil juridique de l'OMC souhaite faire un commentaire à propos de la contribution de l'OIE.
Thank you, Mr. Chair.
Merci, Monsieur le Président. Je voudrais en fait offrir un éclaircissement à propos de l'amendement récent approuvé par l'Assemblée mondiale de la santé qui a été cité par le délégué ou le représentant de l'OIE dans sa déclaration, de même que cela est indiqué dans la contribution de l'OIE par écrit que vous trouvez dans le document CAC/33.1.2. Comme on l'a déjà dit, l'Assemblée mondiale de la santé est l'organe central, l'organe suprême de l'OMS, a adopté un amendement à l'accord entre l'OMC et l'OIE. Cet amendement comprend l'insertion d'un paragraphe supplémentaire. En fait, le paragraphe 4.7 qui concerne en fait la mise en place de normes internationales concernant les aspects de la production animale qui ont une incidence sur la santé sanitaire, sur la sécurité sanitaire des produits alimentaires. Ce libellé est pratiquement semblable à celui que vous trouvez dans l'accord FAO-OIE, dans la structure de cet accord. La chose est un petit peu différente de la façon dont cela a été structuré dans la recommandation de l'OIE. Cet amendement, selon l'OMS, ne représente pas une base juridique pour créer des normes conjointes. Cet amendement se concentre sur la mise en place conjointe, à savoir des activités conjointes visant à mettre en place des normes. En même temps, nous sommes d'avis que cet amendement reflète la volonté et la reconnaissance des avantages d'une coopération plus étroite entre les deux organisations, entre l'OMS et l'OIE, sur divers aspects relatifs à la production animale qui ont une incidence sur la santé sanitaire des produits alimentaires. Ce qui a aussi été reflété dans le rapport du secrétariat à l'Assemblée, dans un document que le secrétariat de l'OMS avait préparé pour nos membres, l'objectif étant d'aider et de soutenir les États membres à prendre une décision informée et prendre des mesures informées. Je cite.
Le secrétariat, c'est-à-dire celui de l'OMS, considère que cette proposition améliorera la collaboration de ces deux organisations pour la promotion et l'amélioration de la sécurité sanitaire et vétérinaire, conformément aux objectifs de l'accord. Dans ce rapport, une autre formulation a été rajoutée. À la suite de consultations avec l'OIE, il est entendu que les amendements proposés ne modifieront pas le statut de l'OIE par rapport à la commission du Codex Alimentarius, qui reste le programme conjoint OMS-FAO auquel participe l'OIE en qualité d'observateur. C'est-à-dire que nos membres ont pris une décision se fondant, entre autres éléments, sur cette information. Pour ce qui est de l'établissement de normes conjointes dans le cadre du Codex, c'est-à-dire Codex OIE, j'estime que cela nécessiterait une décision de la commission de cet organe sur la substance et sur les procédures. Et cela devrait être fait en tenant compte des mécanismes de décision déjà établis en les respectant. Merci, Monsieur le Président. Merci au conseiller juridique de l'OMS. Je vois que le Japon souhaite prendre la parole. Nous écouterons son commentaire ou sa question. Ensuite, nous poursuivrons. Merci. Nous avons un commentaire par rapport à la présentation de l'OIE. Nous aimerions faire une déclaration. Cela est-il possible? Oui, merci. Merci, Monsieur le Président. Le Japon considère que la collaboration entre le Codex et l'OIE est importante. Le Japon salue les accords récents entre l'OIE et l'OMS et prévoit que cet accord facilitera davantage la collaboration entre les deux organisations. Le Japon salue également la décision récente de l'OIE d'inclure des principes de recherche de consensus dans le travail de l'OIE dans le cadre des procédures d'établissement des normes de l'OIE. Le Japon souhaite ardemment que l'OIE élabore des procédures écrites pour l'établissement de normes et des principes de travail pour l'analyse des risques, de façon à améliorer la transparence des travaux de l'OIE. Le Japon prévoit que la prochaine session du Comité des principes généraux discutera en profondeur des questions concernées sur la base des documents de l'OIE qui ont été présentés au cours de la session précédente du CCGP. Merci. Merci au Japon. En fait, une lettre circulaire a déjà été envoyée au secrétariat à tous les membres, leur demandant leur réaction et proposant que ce thème fasse l'objet d'une discussion à la prochaine réunion du CCGP. La conseillère jury de la FAOS, le conseiller, souhaite prendre la parole. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais moi aussi souligner le processus qui est en cours au sein du CCGP pour ce qui est de la collaboration avec l'OIE. La lettre a été envoyée et invite à des commentaires pour une discussion qui aura lieu à Bamako, Mali, pour le CCGP. Une clarification que j'aimerais ajouter d'un point de vue juridique pour ce qui est de la présentation de l'OIE. Je voulais confirmer, réitérer en face de la Commission que l'accord en place entre la FAO et l'OIE n'empiète absolument pas sur la discrétion de la Commission qui est libre de déterminer la forme que prendra sa collaboration avec l'OIE. La FAO estime que la coopération à laquelle elle s'est engagée avec l'OIE dans le cadre de cet accord peut prendre des formes diverses et variées. L'une d'entre elles, correspondant à la configuration actuelle de l'OIE, de notre collaboration avec l'OIE, jouant le rôle de collaborateur ou tout autre mécanisme qui puisse être adopté.
Thank you, FAO. Legal.
Merci au conseiller juridique de la FAO. Nous allons ensuite écouter une brève présentation de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA. Les documents se trouvent en 1-7. Merci, Monsieur le Président, et merci à la Commission du Codex Alimentarius de me donner l'occasion de faire des remarques brèves sur l'activité du programme joint FAO-AIEA par rapport à l'application de techniques nucléaires dans l'alimentation et l'agriculture. Comme vous l'avez dit, le détail de ces activités se trouve dans le document d'information 7 sur l'ordre du jour de cette commission. Nous traitons de la sécurité alimentaire et de la protection des des consommateurs dans trois domaines principaux et je veux vous apporter des informations générales par rapport à ces activités et comment elles sont liées aux travaux du Codex. Le premier domaine traite des dangers de contamination de plusieurs types d'aliments dans le cadre du commerce d'aliments. Ces activités sont liées à l'élaboration, à l'adaptation, à la validation, à l'application de méthodologies visant à contrôler les contaminants alimentaires à travers toute la chaîne alimentaire. Ces activités se concentrent dans le domaine des résidus pesticides et des résidus de médicaments vétérinaires. Nous entamons de nouvelles activités de traçabilité et ainsi qu'une approche aux contaminants alimentaires visant à améliorer la sécurité alimentaire et s'assurer de l'authenticité des aliments par le biais de mesures d'isotopes alimentaires qui sont une nouvelle technologie. Et nous travaillons dans le domaine de la contamination alimentaire et d'autres thèmes liés au transfert de technologies pour l'amélioration des capacités des laboratoires des États membres, y compris par le biais de 40 projets de coopération technique qui sont gérés et financés par le biais de l'AIEA. Le deuxième grand domaine de travail est lié aux radiations ionisantes. Bien sûr, nous travaillons main dans la main avec l'IUCPV pour ce qui est de l'utilisation d'applications phytosanitaires liées aux radiations pour contrôler les pesticides. Nous élaborons des niveaux de traitement pour les groupes
are used to develop IPPC standards.
De parasites pour les contrôler et l'établissement de normes dans ce cadre. Nous essayons également d'améliorer l'utilisation d'applications concernant les radiations pour la santé humaine dans le cadre des hôpitaux. Pour les patients immunodéprimés ou les patients souffrant de troubles sanguins, etc. Et autres groupes cibles potentiels de façon à étendre la catégorie d'aliments qui sont consommés de façon sans danger dans ce type d'intervention. Toutes ces activités liées aux radiations ionisantes améliorent la sécurité alimentaire tout en réduisant l'utilisation ou voire même en interdisant les fumigènes et les pesticides utilisés dans l'agriculture. Et pour en finir, et c'est un point important, l'AIEA et le programme, la division conjointe AIEA-FAO travaillent en collaboration avec la FAO pour répondre aux urgences nucléaires liées à l'alimentaire, ce qui comprend de nouveaux projets de réponse aux situations d'urgence, ainsi que des mesures visant à faire face aux effets immédiats et à moyen terme radiations, ainsi que la révision de normes spécifiquement liées aux éléments ayant trait à la protection du public pour ce qui est des dangers émergents de ces contaminations de radiation. Des activités de recherche sont listées en détail dans le document d'information. Nous venons d'entamer un projet de recherche coordonnée sur la mise en place de techniques visant à prouver la traçabilité, aussi bien pour assurer le suivi des contaminations que pour prouver l'authenticité des aliments. Nous serions heureux de recevoir des demandes de la part d'instituts de recherche qui souhaiteraient participer à ce projet. La date limite est le 30 septembre de cette année. Comme je l'ai dit, nous venons d'entamer un nouveau projet de recherche coordonné pour les Les aliments radiés ayant fait l'objet de radiations pour des groupes spéciaux, y compris les groupes de personnes dans les hôpitaux. Nous travaillons avec d'autres organisations, y compris l'IFAH et l'OIE, pour les programmes de contrôle de résidus pour les antibiotiques et les résidus de médicaments vétérinaires. Par ailleurs, nous avons récemment apporté des informations visant à établir les niveaux maximum de cadmium dans les produits de la pêche ou dans le cadre de l'évaluation du cadmium de JECFA. Nous nous tournons vers l'avenir et souhaitons intensifier nos activités d'élaboration et d'application de la recherche liée à l'assistance technique, comme je l'ai dit, par le biais de nos programmes d'assistance technique, de transfert de technologies, ainsi que l'élaboration de normes. Nous améliorerons notre collaboration avec les États membres de la FAO et de l'AIEA pour établir des laboratoires de contrôle alimentaire nationaux, régionaux et internationaux. Et nous continuerons d'améliorer notre collaboration pour améliorer la préparation et les procédures de réponse aux dangers nucléaires pour la protection des consommateurs. Et j'aimerais également souligner que nous avons un poste à Vienne de l'AIEA qui comporte des spécialistes de la traçabilité des aliments. Et nous sommes prêts à recevoir les demandes d'informations ou peut-être les postulations des candidats intéressés. Merci beaucoup aux représentants de l'AIEA. Nous aimerions inviter l'OIML à nous faire une brève présentation. Nous vous demanderions de vous en tenir à 5 minutes. Vous pouvez trouver les documents en INF5.
Thank you, Mr. Chairman.
Merci, Monsieur le Président. Le document auquel vous faites référence contient une mise à jour des informations fournies par l'OIML aux 31e et 32e sessions de cette commission. L'Organisation internationale de métrologie légale est une organisation intergouvernementale qui élabore et publie des recommandations et des documents utilisés par des pays comme base pour leurs règles nationales d'instruments de mesure et de méthodes de mesure dans les domaines tels que le commerce, la protection des citoyens, des consommateurs, la santé, la sécurité, la protection de l'environnement, le contrôle du trafic. Nos recommandations sont des règlements de modèle et des normes internationales dans le cadre de l'accord TBT-OMC. Les normes du codex chevauchent les nôtres pour ce qui est des dispositions portant sur le contrôle de la quantité et des contenus des produits en paquet. Nous avons deux recommandations sur le contrôle de la quantité des produits de pré-emballage et l'étiquetage de ces produits pré-emballés. Les normes générales sur l'étiquetage et beaucoup d'autres normes du codex contiennent également des dispositions relatives au contenu et à l'étiquetage des produits pré-emballés. Les dispositions du codex et de l'OIML ne semblent pas être entièrement conformes, ce qui donne lieu à diverses interprétations de ce qu'elles édictent. Nous restons en communication avec le comité du codex sur l'étiquetage alimentaire pour discuter de toute différence et les surmonter comme il convient. L'OIML est en train de revoir les deux recommandations sur les produits pré-emballés. Nous serions heureux de recevoir les réactions de la communauté du Codex de façon à ce que les besoins liés aux produits pré-emballés soient pris en compte. Enfin, j'aimerais mentionner que l'OIML élabore un système de certification pour les quantités de produits pré-emballés pour s'assurer que ce système soit compatible avec d'autres systèmes de certification utilisés dans le commerce international. L'OIML surveille étroitement les travaux du comité du Codex pour les systèmes d'inspection et de certification alimentaire. Merci, Monsieur le Président.
Thank you very much.
Merci beaucoup aux représentants de l'OIML pour cette brève présentation. Nous avons ensuite l'OCDE et vous pourrez trouver les informations relatives dans le document INF 1. Et j'invite le représentant de l'OCDE à nous faire une brève présentation. L'OCDE, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, j'aimerais remercier la Commission du Codex et le Secrétariat pour leur présentation pour me permettre de faire une présentation sur nos activités. Nous avons donné des détails de deux activités de l'OCDE qui sont liées à celles de la Commission du Codex. Leurs activités sur les pesticides, les nouveaux aliments, les biotechnologies et le plan sur les végétaux. Nous avons des directives mentionnées dans le document qui sont également disponibles sur le site internet dont vous pourrez trouver l'URL dans le document. Nous avons une courte présentation PowerPoint. Nous allons nous concentrer sur le plan fruits et légumes qui, d'après nous, est un domaine dans lequel nous pouvons davantage renforcer notre coopération avec la Commission du Codex. Donc, en bref, nous sommes une organisation intergouvernementale comportant 31 pays membres dont les travaux portent sur les difficultés économiques, sociales et gouvernance que représente la mondialisation. Pour ce qui est des activités liées à l'alimentation et à l'agriculture, nous avons récemment organisé une réunion des ministères de l'Agriculture avec la participation des 31 pays membres, ainsi que de ministres provenant d'économies émergentes. Cette réunion a porté sur les politiques alimentaires et agricoles pour un avenir durable. Et après cette rencontre, un communiqué a été émis, d'après lequel les membres reconnaissent le besoin d'un cadre de politique régulatoire approprié dans ce secteur. Nous intervenons à ce niveau puisque nous travaillons dans l'unité code et plan, dont le plan fruits et légumes est une seule partie. Nous avons trois autres plans sur les graines, les tracteurs et les graines de forêt et plantes. Nous faisons partie des programmes de l'OCDE, ce qui signifie que nos membres paient des droits annuels. Tous les pays peuvent devenir membres de notre organisation, pas seulement les pays de l'OCDE, ceux également de la FAE et de l'OMS. Nous avons à l'heure actuelle 25 membres. Notre objectif est de faciliter le commerce par le biais d'une application et d'une interprétation harmonisée des normes pertinentes. Vous pouvez voir une courte liste de nos activités. J'ai mentionné les activités qui consistent à assurer des services d'inspection qui comportent trois éléments. Des normes internationales, nous avons nos propres méthodes d'inspection et nous émettons des certificats de conformité. Donc c'est un plan de certification pour la qualité de l'exportation. Les activités de soutien, nous organisons des rencontres, des services d'inspection, nous faisons des examens de pair, des analyses de marché. Nous avons également des activités de renforcement des capacités, des cours et des ateliers. Pour ce qui est des publications, notre publication phare consiste en brochures d'explication sur les normes de qualité. Nous publions également des lignes directrices par rapport aux méthodes et aux analyses de risque. Maintenant, je voudrais simplement insister sur un domaine dans lequel nous pourrions travailler en plus étroite collaboration avec le Codex. Tout d'abord, pour ce qui est des normes, nous n'élaborons pas de normes à l'heure actuelle. Nous adoptons des normes émanant d'autres organisations telles que l'UNIC et nous souhaitons les adapter à la commission des fruits et légumes. Nos premières normes correspondraient aux bananes. Et une fois qu'elles sont adoptées en tant que normes de l'OCDE, nous préparons une brochure explicative qui serait peut-être d'intérêt pour les pays du Codex. Concernant les méthodes d'inspection de la qualité, ces dernières sont uniques au niveau international et s'appliquent dans beaucoup de pays, par exemple dans les pays membres de l'Union européenne. Cette application est obligatoire puisqu'elle fait partie de la législation de l'UE. Nous avons également élaboré des lignes directrices sur les inspections de qualité qui devraient être adoptées en décembre 2010. Ces directives seraient intéressantes pour la commission du Codex, comme je l'ai dit. Il s'agit d'un élément unique au niveau international. Je vais laisser la parole à mon collègue qui dirige le plan fruits et légumes et qui va terminer la deuxième partie de la présentation. Merci. Le CDE, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez simplement résumer, puisque vous n'avez très peu de temps? Pour ce qui est des outils d'apprentissage en ligne, nous étudierons la possibilité d'élaborer un projet joint avec le secrétariat du FAO, le but étant de fournir des conseils qui soient et des outils de formation sur les normes et les méthodologies pour les pays concernés. La FAO n'a pas de méthode d'inspection de la qualité pour les fruits et légumes. Donc, cela constituerait une valeur ajoutée pour la FAO. Nous aimerions de partager ces efforts avec la FAO et utiliser l'expérience de la FAO, en profiter puisque cette dernière a déjà élaboré des outils d'apprentissage en ligne et nous aimerions profiter de leur expérience par rapport à l'inspection sur les fruits et légumes. Nous avons donc un outil d'apprentissage d'inspection qualité qui permet de gagner du temps et de l'argent et qui permet aux pays en voie de développement de participer très facilement à ce système. Ce serait une application en ligne. Pour ce qui est du renforcement des capacités, il y a des cours et des ateliers. S'il vous plaît, l'OCDE, pouvez-vous résumer car nous devons passer à autre chose. Il est bientôt 5h30 et il nous reste d'autres points de l'ordre du jour à aborder. Oui, une dernière chose, s'il vous plaît. Une publication récente. Nous venons de publier un examen des pairs du Maroc qui date de 2009. C'était le troisième examen que nous avions réalisé en 2 ans. Et nous avons récemment publié une brochure sur les abricots, une brochure sur les pêches et les nectarines, et nous allons publier une brochure sur les citrons et fruits de la même famille. Vous pouvez voir diverses variétés que l'on vous présente à l'écran. Voilà, merci beaucoup. Merci de nous avoir donné l'occasion de présenter notre travail dans ce forum.
Thank you very much, representative.
Merci beaucoup aux représentants de l'OCDE. Je suis désolé d'avoir raccourci votre présentation en raison du peu de temps qu'il nous reste. Je saisis l'occasion pour remercier toutes les organisations qui ont fait leur présentation et nous sommes heureux de pouvoir continuer de coopérer au niveau des organisations intergouvernementales. Nous aimerions faire part à la Commission de l'examen des demandes d'admission des ONG qui ont été reçues et qui ont été examinées lors de la 63e session du comité exécutif ainsi que lors de la 64e session du même comité. 5 demandes ont été examinées. Le comité exécutif a soumis son opinion aux directeurs généraux de l'OMS et de la FAO. C'est à titre informatif. Vous pouvez trouver ces informations dans le rapport du comité exécutif. Pour finir, d'après l'ordre du jour que nous avons, nous souhaitons inviter M. McKenney de l'ISO qui nous fera une brève présentation sur ses liens avec le Codex.
McKenney, please.
Monsieur McKenney, s'il vous plaît.
Thank you, Mr. Chair, for the opportunity.
Merci, Monsieur le Président. En tant qu'observateur de la Commission, je suis heureux de pouvoir prendre la parole. L'ISO et le Codex ont une longue histoire de coopération et vous trouverez cela dans le CAC 33-1-6. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails. Comme les États membres de la Commission le savent, l'ISO est une organisation non gouvernementale qui comprend des instituts de 163 organismes, pays. Ceci étant dit, les 163 instituts dont je parle sont pour la plupart des instituts gouvernementaux et ont été désignés par leur gouvernement à jouer un rôle national pour la normalisation volontaire. L'ISO développe également des normes internationales. Pour ce faire, elle se fonde sur des processus de développement multiples et travaille avec, dans le cadre de l'ouverture, le consensus, la transparence et l'engagement dans les pays en développement. L'ISO a plus de 18 000 normes internationales publiées, plus de 800 d'entre elles dans le secteur des produits alimentaires. Je voudrais relever tout particulièrement une ou deux choses. L'ISO a publié récemment une brochure qui explique la distinction entre les normes de l'ISO et les normes privées. Vous trouverez cette brochure ici et il y a un lien dans notre document 1-6 dans notre rapport au Codex également. Ce sujet fera l'objet d'une discussion du prochain de l'ordre du jour. Nous nous réjouissons d'ailleurs de ces délibérations. Je voudrais simplement rappeler qu'un des messages clés de cette brochure, c'est de simplifier et d'harmoniser le paysage des normes. Nous espérons que le Codex continuera à soutenir la distinction entre l'ISO et les normes ISO et les autres. Il serait utile pour certains de tout mettre dans la même catégorie, ça n'est pas du tout précis. Je souhaite être claire sur un autre point. L'ISO ne souhaite pas être reconnu comme étant une quatrième sœur qui développe des normes sur l'accord SPS-OMC. Mais il est important que la distinction continue à être faite entre l'ISO et les autres projets pour éviter toute prolifération et pour encourager une harmonisation cohérente et une cohérence adéquate. Je voudrais également faire un commentaire à propos de l'engagement des pays dans nos travaux. Au cours des 5 dernières années, nous avons augmenté notre assistance technique aux pays en voie de développement. Nous l'avons quadruplé. L'an dernier, c'est arrivé à plus de 2 millions de francs suisses pour soutenir la participation des réunions de l'ISO et le renforcement des capacités pour utiliser les normes ISO. À partir de 2010, nous avons organisé 33 réunions dans plus de 27 pays et des milliers de personnes y ont participé. Nous avons également parrainé des experts pour qu'ils puissent participer à nos réunions sur les produits alimentaires. Sur ce sujet, nous serions prêts à travailler plus étroitement avec le Codex pour mieux coordonner les efforts de renforcement des capacités et de soutien financier des assistances techniques pour aider ces pays à atteindre un niveau plus élevé en matière d'application des normes internationales. Nous avons traité il y a un instant d'autres sujets. Nous aimerions travailler avec le Codex pour échanger les meilleures pratiques, les systèmes et les procédures pour la mise en place de normes internationales. De tels examens ou approches pourraient comprendre, par exemple, les façons pour l'ISO de montrer plus clairement l'utilisation de l'espace et la justification de certains éléments pour l'établissement de normes internationales dans le secteur international. Nous souhaitons nous réjouir de l'excellente coordination qui existe entre nos deux organisations, le travail d'activité qui se poursuit entre nous. Nous sommes parfois complémentaires. Nous réjouissons des résultats. Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole.
Thank you very much, Monsieur.
Je vous remercie, Monsieur McKenney, de ce rapport très bref.
We do have
nous avons effectivement une coopération très étroite avec l'ISO. Mesdames et messieurs, je suis certain que vous avez des questions, mais nous n'avons pas le temps de les prendre puisque nous avons d'autres points de l'ordre du jour à traiter. Et nous vous suggérons d'adresser des questions directement aux représentants des organisations en question qui viennent de nous faire leur présentation. Ceci étant dit, je remercie l'ISO, M. McKinley, de la coopération que nous avons eue et nous espérons que la coopération se poursuivra de cette manière avec le Codex. Je me rends compte que le Maroc souhaite prendre la parole. Nous n'avons pas vraiment le temps d'avoir une discussion à ce stade parce qu'une fois qu'on commence, d'autres questions interviendront. Mesdames et messieurs, j'en arrive à la fin de ce point de l'ordre du jour qui m'était dévolu au sein de cette commission. Je vous remercie tous très sincèrement de votre coopération et du soutien que vous m'avez accordé. Merci aux interprètes qui vous remercient.
I believe FAO would like to make an announcement.
La FAO aimerait faire une annonce.
Thank you, Mr. Chairman. I don't want to...
Monsieur le Président, je sais qu'une interruption est prévue, mais je voulais simplement dire... je voudrais vous présenter une petite vidéo pendant la pause que la FAO a sur son site web qui concerne une campagne lancée par la FAO le mois dernier sur... les 1 milliard de personnes qui ont faim dans le monde. Je sais que vous parlez surtout de la qualité et de la sécurité sanitaire des produits alimentaires, mais à la FAO, nous nous intéressons aussi du point de vue de la sécurité alimentaire. Nous essayons de lutter contre la malnutrition et la faim. Cette campagne demande à chacun d'entre nous de signer une pétition pour que d'ici le mois d'octobre 2010, à savoir à l'occasion de la prochaine journée mondiale de l'alimentation, il y ait un minimum de 1 million de signatures. Plus de 100 000 signatures ont déjà été collectées et j'aimerais vous lancer un appel pour que vous envisagiez de signer cette pétition. Il suffit de vous rendre sur le site web de la FAO. Il suffit de vous informer de cette campagne. Si vous êtes convaincu de la justesse et de l'importance de ce sujet, vous pourriez alors signer cette pétition. Pendant la pause, ceux qui sont ici pourront visionner cette vidéo et prendre une décision à propos de cette pétition. Je vous remercie. Je vous remercie, M. Boutrip. Le secrétariat souhaite faire une annonce. Merci, M. le Président. Nous arrivons à la fin de cette session. Nous allons faire exactement ce que nous avons fait hier. Nous aurons une pause d'une petite demi-heure, puis nous reprendrons pour la session du soir pour discuter des autres points de l'ordre du jour. Voilà, vous avez donc une petite demi-heure de pause. Je vous remercie.
OK, delegates, are you ready?
Très bien, mesdames et messieurs les délégués, nous sommes prêts à poursuivre. Je vais présider le point 13 à l'ordre du jour, examen de l'impact des normes privées, mais également le point 14. Nous avons déjà traité le point 14A, projet fonds fiduciaires. Ce qu'il nous reste à traiter, ce sont autres questions soumises par la FAO et l'OMS. Mais avant de commencer avec le point 13, on m'a dit qu'au point 12 à l'ordre du jour, le Maroc avait des commentaires sur la présentation d'une des organisations. Donc avant de passer au point 13, je propose que l'on donne la parole au Maroc pour sa prise de parole en espérant que l'intervention soit brève et précise. Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas de commentaire en ce qui concerne les interventions sur les organisations internationales. En fait, j'ai une déclaration générale à faire sur la façon dont l'organisation du Codex traite des relations avec d'autres organisations. Je pense que le Codex est très timide dans ses relations avec les autres organisations. En effet, les normes du Codex sont celles qui sont utilisées pour résoudre des conflits au sein de l'OMC. Donc, dans ce sens, je pense que le Codex devrait prendre les rênes de ces normes qui sont préparées dans d'autres organisations. Et je propose une collaboration conjointe avec ces organisations. Et puis, dans les discussions, comme celle du point 12 à l'ordre du jour, ne devrait pas se borner à des informations, mais devrait également débattre d'un certain nombre d'éléments que le Codex devrait aborder et traiter avec les organisations internationales pour faire en sorte que les normes soient plus efficaces dans le monde entier. Merci.
Thank you, Morocco.
Je remercie le Maroc pour cette déclaration. Je suis sûre que le secrétariat en a bien pris note et va l'inscrire au rapport. Donc le point 12 est terminé.